Podcastobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Daniel Gardiol.
Bonjour.
Daniel Gardiol, vous venez de publier votre premier album, qui a un titre, qui est L'Aube des siècles, et au cœur duquel il y a un personnage, dont peu connu, on en parlera, qui s'appelle Paul Le Ionnais. Le titre exact d'ailleurs, c'est Hommage à Paul Le Ionnais. Et Paul Le Ionnais n'est pas un compositeur, mais un pianiste, et qui sur cet album, vous avez rassemblé des œuvres qu'il a interprétées, parfois même créées, des œuvres de Lucien Durosoir, Bernard van den Sichtenhorstmeyer.
Parfait.
Voilà, j'ai bien répété, et également Jacques Ibert. Oui. Cet album sort chez Algarade. Vous êtes pianiste, c'est votre premier album. C'est vrai qu'en général, quand on publie un premier album, j'imagine qu'on a plein d'idées, on a plein d'envies. Et vous êtes un jeune pianiste, et là, justement, il y a un peu le contre-pied de se dire que vous ne sortez pas un énième Chopin ou un autre. Comment vous est venue cette idée ?
Tout d'abord, cette idée, elle est partie d'une rencontre avec Pierre Giraud. Qui est un ami et professeur avec qui j'ai travaillé, et vraiment il a une approche de clavier différente, et ça m'a attiré. Donc à partir de là, il m'a parlé de son enseignement qu'il a reçu dans sa vie de pianiste, et dont son professeur Paul Le Ionnais. Il m'a donné son livre qu'il a écrit. Et je me suis intéressé en fait à ce pianiste, à sa technique, à la technique, à la recherche technique qu'il a faite sur le piano. Et à partir de là, je me suis passionné vraiment pour tout cet univers du début du XXe siècle et pour toutes ses œuvres. Et par le pur hasard, il s'est retrouvé qu'à une séance de travail, Pierre m'a donné une partition et m'a demandé de regarder. Et je suis tombé sur Aube sonate d'été de Lucien Durosoir. Voilà. Donc tout a commencé par là.
Donc ça fait beaucoup de choses en même temps.
Fait beaucoup de choses en même temps.
Comment justement, mais c'était également un message, j'imagine, sur le fait justement de, pour un premier album, d'imposer comme ça des œuvres peu connues ou inconnues, de mettre justement un peu les sunlight, les projecteurs sur des personnalités oubliées souvent du piano, parce que ce Le Ionnais est assez incroyable. Il a traversé, il est mort, je crois, qu'à 90, il y a presque 100 ans, 99 ans.
99 ans,
il est né en 1889, mort en 1988. Et il a rencontré à peu près un nombre de personnalités du siècle musical, enfin,
c'est énormément. Quoi.
C'est assez important, Ravel, il a vraiment croisé
Ravel,
beaucoup
Debussy,
de Debussy,
Chaillard,
enfin, il a croisé un peu tout le monde.
Saint-Saëns, Fauré, tout le monde, pratiquement, oui.
Parlez-nous un petit peu justement donc c'était quelqu'un effectivement d'étonnant qui côtoyait, qui a créé également donc des œuvres.
Il a créé certaines œuvres, dont les histoires de Jacques Hilaire, les six vues du Fusiyama qui sont sur l'album de Bernard van den Sichtenhorstmeyer, et pas mal d'autres œuvres aussi que j'ai pas mises dans l'album, mais c'est vraiment une. En fait, c'est un pianiste qui a beaucoup défendu les compositeurs de son temps. qui a beaucoup joué les compositeurs de son temps. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, ce qu'on fait rarement maintenant aujourd'hui. On joue beaucoup Bach, Chopin, Mozart, toujours les mêmes choses. C'est super, hein, j'ai rien contre. J'adore jouer tout ça.
Il y a des choses intéressantes.
Voilà, il y a des chefs-d'œuvre magnifiques. Mais j'avais vraiment envie de faire cette démarche de chercher des nouveaux compositeurs, de ramener une nouvelle fraîcheur au piano, des nouvelles sonorités pas entendues ou des mondes méconnus. Et mon choix, c'est vraiment dirigé vers ça, quoi.
Qu'est-ce qui vous a touché dans son approche, dans l'approche du piano de Loyonnais, que vous avez évoqué Pierre Giraud, qui l'a connu, qui était un... qu'est-ce qui vous a intéressé dans sa technique, dans son approche de la musique, etc. Il y a des choses en particulier ?
C'est la façon de penser la musique et de le relier au geste, au corps, et en fait de faire un avec le piano. C'est pas le piano et le pianiste, c'est vraiment une seule et même personne, vous voyez ? Parce qu'il y a un instrument inerte et un instrument vivant qui est le nôtre, et vraiment de faire qu'une symbiose de tout ça, quoi. C'est vrai qu'à partir de Pierre, ça m'a vraiment ouvert cet horizon-là, et... On le voit très bien dans les mémoires de Loyonnais, il y a toute cette recherche de l'instrument, du prolongement du corps par rapport à l'instrument, tout ça, donc ça m'a vraiment passionné.
Qu'est-ce qui vous touche dans cette musique française du début du XXe ?
Il y a une poésie, qui me parle. Je ne saurais pas comment le décrire ou le définir avec des mots, c'est vraiment... faut le ressentir, quoi. Il y a quelque chose qui se passe avec cette musique du XXe siècle. Je me souviens quand j'ai pris cette partition de Obsonate d'été, j'ai déchiffré deux lignes. Et tout de suite, j'ai fait ça, je veux le faire. Tout de suite. Et j'ai pris deux lignes comme ça, au hasard. Et tout de suite, ça m'a parlé.
Qu'est-ce que ces partitions ont apporté à votre piano, à votre approche du piano, à votre vision de la musique que vous avez? Vous êtes un jeune pianiste, vous avez une vingtaine d'années, donc vous êtes, même s'il n'y a jamais vraiment de fin pour un pianiste, oui, pour sortir des clichés que même les vieux pianistes apprennent encore, mais qu'est-ce qui, pour un pianiste comme vous, qui est en devenir, qui est en construction, etc., qui est dans une période où, j'imagine, on emmagasine des œuvres, des compositeurs, on découvre tous les jours, qu'est-ce que ces œuvres-là, en particulier, comment elles ont nourri votre approche de votre instrument?
Bah alors déjà, faut savoir que là, c'était un travail vraiment différent comparé au travail d'interprète que j'ai pu faire sur d'autres œuvres telles que Bach, Chopin, Mozart, Liszt. C'est que là, il n'y avait aucun enregistrement, aucun support. J'étais vraiment voué à moi-même et j'avais rien. Donc j'ai dû vraiment faire une recherche d'interprétation, de comprendre la musique, de m'adapter à l'écriture, parce que c'est une écriture très dense, très difficile, très technique, et pas du tout pianistique, parce que Lucien Durosor était violoniste et pas du tout pianiste. Et ça m'a permis d'aborder le piano sous un angle différent, en fait. De m'adapter, de trouver des solutions différentes et finalement de sortir d'un chemin qui est toujours le même qu'on rencontre dans les compositeurs, que l'on joue tout le temps, entre guillemets.
Rapport à ça, c'est-à-dire quand vous devez vous aborder une œuvre qui a été enregistrée des centaines, voire des milliers de fois, avec des milliers de références et des ouvrages à n'en plus finir sur l'analyse de cette œuvre, et là, quelque chose, comme vous dites, où vous êtes un peu le Sherlock Holmes, Indiana Jones, a essayé de trouver des informations, de n'avoir finalement aucun repère et d'être vraiment encore avec la partition. Comment justement la différence entre les deux vous touche? C'est quelque chose d'assez unique, cette virginité, justement.
Oui, c'est quelque chose. Pour moi, c'était tout simplement incroyable, hein, d'être l'élément qui permet de faire découvrir cette musique, d'apporter mon ressenti, ma vision de l'œuvre, et sans avoir été influencé par quelques versions, finalement. D'ailleurs, même quand je travaille d'autres compositeurs beaucoup plus connus, j'écoute jamais de versions avant. Même si on en a quelques-unes dans la tête, mais quand je travaille, j'écoute pas les CD, je préfère vraiment me fier à moi-même. Et puis après, on peut écouter quelques versions, mais je préfère vraiment me faire confiance et faire confiance vraiment à ce que la musique me donne. Je trouve que c'est important et qu'il faut oublier le fait d'appuyer sur un bouton et qu'on ait tout de suite tout et qu'on fasse du copier-coller. Et là, vraiment, d'essayer quand même de faire une recherche. Et là, cette démarche avec ces compositeurs-là, c'était vraiment faire un travail d'interprétation réel, de fond, comme on n'a pas la chance souvent de le faire vraiment avec les œuvres qu'on joue actuellement partout, en concert ou au conservatoire. Thank you.
Qu'est-ce qui vous a touché en particulier chez chacun de ces trois compositeurs différents? Et sur les œuvres, même à la rigueur, que vous avez choisies?
Bah, déjà, ce...
Chez Le Rosoir, par exemple. On commence par lui.
Déjà, ce qui m'a touché, c'est vraiment déjà les titres des œuvres. Mmh. Tout de suite, déjà, on voyage. Mmh. Hein, vous voyez, Aube, sonate d'été, on dit ça, ben, tout de suite, on est parti. Mmh. On peut se retrouver dans un endroit à moins 40, on dit ça. On imagine tout de suite ces sensations. Et puis, c'était des titres évocateurs, donc tout de suite, ça, c'est quelque chose qui fait appel à l'imagination. Mmh. Donc, c'est pas comme si on avait écrit sonate ou étude ou quoi que ce soit d'autre qui a aucun sens. Enfin, qui a aucun sens ou qui n'appelle pas forcément, qui fait pas appel à l'imaginaire. Et... ensuite, vraiment, c'est la poésie de chacun de ces compositeurs. C'est de cette musique française pour Jacques Ibert et Du Rosoir. Et la musique hollandaise, vraiment, c'est cette poésie, ce langage musical, ce monde immense, immense.
Comment il a fait éruption par rapport à quand vous avez découvert ces compositeurs, par rapport à ce que vous aviez, où en était votre connaissance pianistique, votre niveau, etc. Comment ça a chamboulé des choses? Ou ça a juste élargi finalement votre...
Ça a tout simplement élargi, ça n'a pas forcément changé, mais ça a plus élargi mon point de vue et puis ma vision des choses. Quoi. Mais ça m'a permis quand même de ressentir la musique différemment, de la voir différemment. Comment expliquer, de ne pas être enfermé dans quelque chose que j'aurais déjà entendu ou quoi que ce soit d'autre. Là, ça m'a permis vraiment d'être au cœur de la musique et pas être prisonnier de certaines choses.
Alors ce projet aussi, il y a un projet presque, on pourrait dire, instrumental avec le piano que vous avez utilisé.
Oui, un piano de Stephen Poello.
Stephen Poello, parlez-nous un petit peu de spécificité de ce joujou.
un gros joujou. Ah, c'est un piano tout simplement magnifique. Premier abord, j'étais impressionné du son. Il a un son magnifique, des graves chaleureux. Une possibilité de faire des nuances, enfin d'avoir une amplitude sonore extrême, donc vraiment d'aller vraiment au plus loin dans les nuances, de pouvoir faire créer des atmosphères, et puis au niveau de tout ce qui est de la mécanique, ça fonctionnait tout seul, c'était facile, vraiment. C'est un très très bel instrument.
Vous avez dit que tout à l'heure, j'ai pas tendance à écouter les disques. Et dans votre parcours musical, dans votre éducation musicale, quel rapport vous aviez justement avec les enregistrements dits historiques? Quand vous avez commencé le piano, est-ce que vous plongiez dans des intégrales de tel ou tel pianiste ou pas spécialement?
Pas du tout.
Jamais?
Jamais. Jamais. Je me suis jamais plongé dans les intégrales ou quoi que ce soit d'autre.
Vous êtes resté entre la partition et vos professeurs finalement?
Voilà, entre la partition et mes professeurs. Et puis bon, bah, après, il y a les concerts, mais le disque, je... Non, j'ai pas...
Pas de curiosité, pas d'envie, une peur d'être trop influencé, comment...
Je crois que c'est plus une peur d'être trop influencé et de pas... et de fausser le message que j'aimerais faire passer en jouant. Et d'être trop imprégné d'une version et d'être moins sincère finalement dans le discours que je ferai en jouant.
Les concerts, vous dites, en concert, vous allez parfois au concert écouter des confrères de votre âge ou de votre génération ou plus anciens?
Je vais écouter le plus ancien. Et quelques confrères aussi, bien sûr. Mais je vais écouter quand même quelques anciens.
Et justement, quand vous vous retrouvez confronté à des gens qui abordent des partitions... parce que c'est pas sur disque, puisque vous écoutez pas les disques sur scène, quel impact ça, bah, cela
c'est,
a
bah, c'est tout simplement royal hein, pour moi.
Quels sont les concerts qui vous ont marqué, par exemple? Il y en a quelques-uns qui vous êtes sortis tétanisés ou assez chamboulés?
Oui, le concert de Nelson Frère, celui récemment où il a fait à Pleyel, où il a joué Brahms, Schumann ou quoi que ce soit, et d'autres compositeurs. Oui, parce qu'il y a vraiment ce côté humain, vivant. Et de voir ces personnes qui sont d'une autre génération, de les voir jouer comme ça, pour moi, c'est du bonheur. Hein. C'est beaucoup plus intéressant que de les écouter en disque. Je préfère vraiment les... Là, vraiment, ça m'a marqué, parce que c'était un concert touchant, magnifique. Et c'est un très, très grand pianiste.
Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le piano? Je crois que vos sœurs, grandes sœurs étaient pianistes, c'est ça aussi? On fait du
voilà, en fait, le piano. Tout le monde a fait de la musique dans la famille. Mes parents m'ont tous mis à...
Mais pourquoi le piano et pas la batterie ou l'harmonica?
Je voyais mes sœurs jouer, ça me plaisait énormément. Mmh. Et je me suis dit que je voulais faire ça. Je me souviens, c'était un soir, je dis à mon père, je veux faire du piano. Et il m'a dit, bon, bah, on t'inscrira au conservatoire l'année prochaine. Quoi. Bon, je n'ai pas commencé par piano, il a fallu faire une année de solfège. mais bon, 2 ans après, j'avais toujours envie de...
C'est quoi vos premiers émois musicaux, justement, la première fois où, je sais pas, à la radio, à la télé ou sur un disque, où vous vous êtes arrêté et quelque chose musicalement vous a tétanisé, chamboulé?
Je crois que la première fois, et ça restera gravé, c'est quand j'écoutais Alain Planès jouer les impromptus de Schubert, c'était en CD. Mmh. Mais je crois que là, je me suis dit, c'est ça. Je veux faire ça. Ça m'a bouleversé. Mmh. C'était bouleversant. Et ça a été déterminant aussi. Ça a été déterminant. Plus l'enseignement que j'ai reçu de mon premier professeur, qui aussi était très déterminant dans mon avenir, et que je remercie chaleureusement. Mais ouais.
Est-ce que vous avez rapidement, quand vous êtes engagé dans le processus d'éducation musicale avec un plus plusieurs d'autres professeurs, vous avez rapidement trouvé votre voie, savoir clairement ce que vous vouliez, vos envies, tant en termes de répertoire qu'en termes de choses à dire? Est-ce qu'il y a eu des paliers par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez vraiment l'impression, au début on est un peu une éponge finalement, on emmagasine la partition, ce que transmettent les professeurs, mais est-ce qu'il y a eu des moments où vous êtes vraiment senti passer des paliers personnels par rapport à votre approche de la musique?
Oui, j'ai senti ces paliers-là quand j'ai commencé à vraiment m'imprégner de la technique pianistique, où j'ai pu aborder certains répertoires qui ne m'étaient pas encore autorisés. À cause de mes moyens techniques. Vraiment, quand j'ai pu aborder tout le répertoire du 20e, là, je me suis dit, c'est cette musique-là que je veux jouer, qui me parle vraiment le plus et qui me touche.
Vous êtes justement par rapport au choix des répertoires, vous êtes plutôt posé dossier par dossier, vous avez une sorte de gloutonnerie, vous voulez toucher à tout.
Je veux toucher à tout, je suis glouton. <Vous êtes>, C'est comme dans la vie, incapable de m'arrêter. Quoi. J'aimerais tout faire, mais bon, on ne peut pas.
Mais non, les journées font 24 heures.
Voilà, c'est ça, dommage. Mais oui, c'est... Non, je n'ai pas de dossier ou machin, c'est selon l'envie, et puis je teste tout, et puis je trouve vraiment ce qui... il faut qu'il y ait un déclic, un coup de foudre. Quoi.
C'est quoi les derniers déclics, les derniers coups de foudre en ce moment? En termes de soit de compositeurs dans leur globalité, soit en termes d'œuvres en particulier?
Là, mon dernier coup de foudre, c'est Séphoré. Séphoré, là, j'aimerais vraiment jouer le thème et variations. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Là, j'ai réécouté, c'est ça, il faut que je le joue absolument. Et il y a aussi Ravel... Ondine, Scarbo, Gibet, tout ça.
Vous avez été un petit peu médiatisé ces derniers temps avec un peu cette étiquette de pianiste venant de la Courneuve, la cité des 4000. C'est une réalité, mais en même temps, j'imagine que ce qui vous intéresse, c'est la musique avant tout. Est-ce que il n'y a pas un peu une sorte pas de combat permanent, j'allais dire, parce que le mot est peut-être violent, mais de dire voilà, je voudrais qu'on s'intéresse à moi avant tout pour la musique et pas juste pour être l'exception qui vient des cités et qui n'est pas juste avec un ghetto blaster à écouter du hip-hop. On peut aussi écouter de la musique et faire de la musique classique. Comment vous gérez cet aspect-là? Est-ce que c'est quelque chose vous faites avec, parce que bon, c'est le début d'une carrière en même temps, ou Comment vous abordez ça?
Bah, moi, je fais avec et puis je laisse les choses faire. De toute façon, je vais pas aller me battre pour ceux qui vont, qui vont mettre en avant ce côté de la banlieue. Il est là, il est vrai, mais chacun aborde mon statut comme il l'entend, hein, peu importe. En plus, moi, de toute façon, c'est pas du tout... moi, la banlieue, c'était il y a quelques années. Bon, bah, ça fait partie de moi, ça fera toujours partie de moi. Et puis, je fais avec.
Est-ce que sur justement la diffusion de la musique classique, même déjà ne serait-ce qu'auprès des jeunes en général, comment vous abordez cet aspect? Est-ce que c'est quelque chose qui trotte dans votre tête? Par exemple, je sais pas, est-ce que vous avez des envies d'enseignement? Est-ce que vous avez des envies par rapport à ce genre de choses, de dire qu'on peut, qu'il y a des moyens, et de se dire que peut-être certaines personnes ne s'imaginent pas qu'on puisse s'engager dans la musique classique, qu'il y a... Comment vous gérez cet aspect-là? Ou pour l'instant, c'est pas vraiment dans vos préoccupations?
Si, c'est dans mes préoccupations, parce que l'enseignement, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui m'a permis vraiment de sortir de la banlieue. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie déjà actuellement, parce que j'enseigne sur Paris en cours privé. Et je crois qu'il y a une désinformation ou un manque il manque quelque chose au sein des banlieues, au niveau de la musique, au niveau de la culture, et je crois qu'il est important de se battre pour faire accéder aux jeunes finalement des cités ou des cités d'accéder à la musique, quoi. Moi, je vais me battre pour ça. Je crois qu'il est important et que c'est dommage de passer à côté de certaines choses, surtout qu'il y a beaucoup de possibilités en France pour pouvoir accéder facilement, à moindre coût, hein, à tout ça, et qu'on n'est pas forcément informé ou on pense que c'est réservé à une sorte certaine couche sociale ou une élite, et ça c'est complètement erroné.
Quand vous avez grandi au début, quand vous avez commencé à vous lancer dans ce parcours, dans votre éducation musicale, autour de vous, les gens vous regardaient un peu comme un ovni? Vous étiez...
comment ça s'est passé? Au sein de la banlieue? Non, on ne m'a jamais regardé comme un ovni. Ça s'est toujours bien passé, d'ailleurs. Le dimanche...
Vous ne jetez pas de pierre?
Non, je n'étais pas de pierre. Le dimanche, je travaillais mon piano, on entendait du Bach, les appartements étaient mal assonorisés, donc on entendait, j'avais un piano à queue, donc les gens, ils étaient contents.
Hein, vous avez réussi à convaincre des amis de se lancer aussi dans les classiques?
Non, j'ai pas réussi à convaincre, mais en tout cas, ils ont apprécié, et je n'ai jamais eu aucun problème avec ça. Aucun.
Vous pensez que les pouvoirs publics, enfin l'État, doit justement effectivement un peu plus investir en termes d'éducation,
d'implémentation? Oui, absolument. Absolument. Je trouve que c'est pas assez et qu'ils pourraient faire plus.
Vous dites, je commence à enseigner en cours privé. L'enseignement, la transmission, cette fois-ci, c'est vous qui passez de l'autre côté du miroir. Comment ça impacte votre jeu à vous? On sait que certains pianistes... effectivement, leur propre piano est un peu différent quand ils se retrouvent à devoir transmettre, à se retrouver de l'autre côté de la barrière. Est-ce que ça a une implication, quelque chose de différent pour vous?
Le fait d'enseigner, moi, ça m'apporte... déjà, ça me permet de comprendre pas mal de choses, pour moi. de résoudre des problèmes qui, finalement, quand on est au cœur de quand on est concerné, on n'arrive pas à se mettre à l'extérieur et d'analyser ça de façon objective. Et le fait de retrouver ces mêmes problèmes avec les élèves et de dire, mais c'est évident pour nous, on dit, mais c'est comme ça, ou voilà, et ben ça permet de régler pas mal de choses et de ça m'a permis de voir différemment
votre propre piano même?
Mon propre piano même, oui.
Quand vous ne faites pas de musique, vous en écoutez beaucoup ou pas? Vous écoutez des disques, vous téléchargez, vous allez au concert, ou vous avez plutôt tendance à faire d'autres choses, à écouter le silence?
J'écoute le silence, je lis sinon. Je préfère lire... je fais déjà beaucoup de musique toute la journée. quand j'ai fini, je préfère lire. J'écoute un peu des CD, hein, oui. Mais je préfère lire.
Et quand vous écoutez de la musique, vous écoutez autre chose que du classique ou pas spécialement?
Si, j'écoute du classique, mais pas de piano en tout cas. J'écoute tout, mais pas de piano. Enfin, très peu de piano en tout cas.
Même si ce premier album vient juste de sortir, vous avez déjà des envies pour le le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième.
C'est encore trop tôt, il vient de sortir là.
Pour le deuxième, on va se limiter. Il y a déjà des programmes dans votre tête qui trottent sur ce que vous aimeriez graver. Ou pour l'instant, non, pas trop.
Non, pour l'instant, pas trop. Pour l'instant, je crois que il va falloir que je défende celui-ci et que il est important que je me concentre vraiment là-dessus avant d'entamer un deuxième et...
Et un troisième.
Et un troisième et un quatrième.
Bien, donc je rappelle que cet album s'appelle L'Aube des siècles, c'est un hommage à Paul Le Lyonnais, donc avec des œuvres de Lucien Durosoir, Bernard van den Stiegen Hurstmeyer et Jacques Ibert, est sorti donc chez L'Algarade. Merci Daniel Gardiol.
Merci à vous.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.